rebelle, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 49. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentif. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Puis dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, je vais lire au chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je leur dis, « Mon Seigneur, tu le sais ?» Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera. » Et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, j'aimerais parler de l'espérance. Pourquoi est-ce que j'aimerais parler de l'espérance? Parce que si on ne sert pas dans l'espérance, on ne peut pas servir. Si on ne sert pas dans la foi, on ne peut pas servir. Si on pense que c'est nos actions en elles-mêmes qui portent du fruit, et si on pense que c'est peut-être notre enthousiasme ou notre force de caractère ou nos rêves. Parfois j'entends des chrétiens qui disent, moi je rêve d'annoncer l'évangile, je rêve de voir des choses merveilleuses dans l'œuvre de Dieu. Mais si c'est seulement nos rêves, mais si c'est seulement nos désirs, si c'est seulement notre aspiration, on va être désespéré. Et je voudrais commencer par dire quelques mots sur ce texte d'Ésaïe 49 qui décrit le Messie, un texte choquant. C'est un texte qui prophétiquement, tous les commentateurs, d'abord les juifs, et puis tous ceux qui étudient la parole, ils voient là un chant du serviteur de l'Éternel. Donc un chant qui décrit le Messie, un chant qui décrit Jésus-Christ. Et donc il y a ces mots qui décrivent le Messie qui a été élu de Dieu, qui a été choisi. Et on aurait pu continuer à lire le texte, le Messie qui apporte la lumière au monde entier, aux nations, non, pas seulement à Israël, mais au monde entier. Donc à nous ici aujourd'hui, on est des gentils, on est des peuples, des nations. Le Messie qui fait sortir des prisons, des cachots, ceux qui sont liés par le désespoir, qui permet aux aveugles de retrouver la vue. Mais il y a un moment où on a l'impression que le Messie chancelle. Il dit c'est pour le néant et le vide que j'ai consumé ma force. C'est comme s'il y a une constatation. C'est une constatation humaine. Il dit c'est désespérant. Ça n'a servi à rien. C'était inutile. Il y a pas de récompense. Il y a pas d'épanouissement. Il y a pas de fruits visibles. Et il continue, bien sûr, parce que l'esprit du Messie, l'esprit de Christ, l'esprit du Seigneur dit « Mais mon droit est auprès de mon Dieu ». Mais quand il dit mais mon droit, ma récompense est auprès de mon Dieu », ce droit, cette récompense, c'est en dehors de ce qui est visible. C'est pas quelque chose qu'on voit, et on est amené devant cette réalité que les choses les plus importantes, c'est ce qu'on voit pas. Bien sûr, on va dire « On le sait ». Bien sûr, on le sait, mais c'est normal, on est humain, on est attaché à ce qui est visible, on mesure notre vie par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on ressent aussi. Et j'aimerais parler aussi d'un autre aspect. J'aimerais parler des souffrances de l'âme. On vit à une époque où on dit « l'homme doit être épanoui ». Tu dois absolument être épanoui, tu dois absolument être heureux. Une société où on élève le bonheur comme quelque chose qui est au-dessus de tout. Et parfois, on entend des chrétiens dire « Accepte Jésus-Christ et tu seras toujours heureux ». Il y avait un chant quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, qui disait « Ma vie est un grand jardin fleuri ». C'est un très beau chant, la mélodie est très belle. Bon, j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup la nature, les quelques-uns d'entre vous qui me connaissez le savent. Mais est-ce que ma vie est un jardin fleuri? Je ne suis pas sûr. C'est pas vraiment ça. Et il y a quelque chose dans lequel je ne crois pas. Je vais peut-être choquer quelques-uns, je vais peut-être décevoir quelques-uns. Je ne crois pas à la guérison parfaite des souffrances de l'âme, ici-bas. Si on était guéri de toutes les souffrances de l'âme ici-bas, comment est-ce qu'on pourrait aider les malheureux? Comment est-ce qu'on pourrait avoir compassion de ceux qui souffrent? On serait comme les amis de Job. Les amis de Job, ils étaient performants, ils connaissaient la vérité, ils connaissaient Dieu, ils connaissaient la doctrine. Les amis de Job, vous savez, ils disent des choses d'une sagesse, qui me dépasse. Ils connaissaient le dessein de Dieu. Il y a souvent, dans les réunions, on cite des paroles d'Eliphaz. Et pourtant, les amis de Job, ils n'avaient pas compassion. C'est pour ça que Job, dans un moment de désespoir, il dit quelqu'un qui souffre, il a droit à la compassion de son ami, même s'il avait abandonné la crainte du Tout-Puissant. Mais il dit, mais mes amis, c'est comme ces rivières qui descendent des montagnes enneigées, donc du Moyen-Orient, mais leurs eaux se perdent dans le sable et les caravanes s'enfoncent dans le désert et espèrent trouver de l'eau et il n'y en a pas. Et donc il y a une souffrance de l'âme, et c'est vrai, on est à l'époque où on dit l'homme doit être heureux, fais quelque chose qui te rend heureux, et les loisirs qui t'épanouissent, et les activités qui t'épanouissent, et le cercle d'amis qui t'épanouissent, et le niveau de vie qui t'épanouissent, toutes ces choses-là. Alors on peut aller voir les psychothérapeutes qui te disent tu vas avoir des réunions, tu peux avoir des entretiens qui vont te rendre heureux, ou faire de la méditation qui te rend heureux. Bien sûr, tout ça c'est le monde, mais on est tiré du monde, on est quand même influencé par ce monde, et on peut aussi espérer une vie chrétienne où il n'y a plus de souffrance dans notre cœur, dans notre âme. Et pourtant la réalité est différente. Oui, le Seigneur s'est révélé à nous, oui, le Seigneur nous a délivrés, le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous donne de le servir, et certainement la joie de servir Dieu, elle est au-dessus de tout. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu peux faire une réunion demain soir dans un village ?» Et les gens te demandent « Bon, j'en ai déjà fait 6 cette semaine, je pourrais dire « Allez, je vais me reposer. » Mais j'ai dit « Mais non, mais bien sûr, j'y vais. » C'est la plus grande joie de parler du Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie que ça que de servir le Seigneur. J'en connais pas de plus grande, c'est sûr. Mais il y a aussi les souffrances de l'âme. Ceux qui disent qu'ils ne souffrent pas. Ceux qui disent ça y est, le Seigneur m'a délivré de toutes mes douleurs, le Seigneur m'a délivré de toutes mes souffrances. Je sais pas, mais ça veut dire qu'ils peuvent aimer personne. On peut pas aimer. On peut pas juste être joyeux alors que je sors de chez moi et les gens ils fouillent dans les containers devant chez moi. J'ai la misère devant mes yeux tous les jours. Je peux juste être heureux comme ça, sortir en sifflotant, il fait beau aujourd'hui. On peut pas. J'ai perdu ma mère quand j'avais 9 ans, mes deux frères sont drogués, sans domicile fixe, ils vivent dans la rue. Est-ce que je peux juste comme ça, comme si de rien n'était, quoi? Et, Regardez, regardez ce que David dit. Ce que David dit. Certainement dans un moment de souffrance. Et qu'est-ce qu'il ressent, le psaume 13 un psaume, certainement un psaume de foi extraordinaire. Mais David, il dit ce qu'il ressent. À la différence de nous qui parfois, on a des souffrances dans notre âme, mais on veut faire bien devant les frères et sœurs, alors on ne les partage pas. On a du mal à partager. Il dit des choses. Si un chrétien il disait ça, ou si quelqu'un il disait ça dans la prière, on le jugerait. On dirait, oh, lui, il est faible dans la foi. Lui il n'est pas vraiment dans la foi. On pourrait presque, même, il y en a peut-être qui diraient qu'il blasphème. Il dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Alors bien sûr, on sait que le Seigneur ne nous oublie pas, on sait que le Seigneur ne dort pas. Hein. Jusqu'à quand te cacheras-tu ma face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? C'était sa vie. Et si on pose la question, est-ce que le Seigneur lui a répondu à ce moment-là et qu'à cette seconde-là, il a été délivré et qu'à partir de ce moment-là, dans la vie de David, il n'y avait plus de chagrin, il n'y avait plus de souffrance, il n'y avait plus des moments où on prie, où on a des choses à cœur, ou des situations qu'on ne comprend pas, des questions qu'on a, et en fait, on n'a pas vraiment de réponse. Hein? Il dit, regarde, réponds-moi. Et il dit quelque chose de très important. Il dit, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. C'est-à-dire que je ne perde pas l'espérance. Et il reste dans l'espérance, il reste dans la foi. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai confiance à ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Qu'est-ce que c'est cette confiance en la bonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est cette allégresse? Qu'est-ce que c'est que cette espérance? C'est pas une vie un peu naïve où on dit le chrétien il a plus de tentation vraiment, le chrétien il a plus vraiment de convoitise, le chrétien il a plus vraiment c'est du tout ces blessures et ces douleurs de l'âme qu'on porte dans notre cœur. Celui qui dit qu'il a été entièrement délivré de tout, moi j'y crois pas. Parce que c'est pas vrai, parce que la réalité elle est différente. Mais qu'est-ce que c'est que cette espérance? Je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose dans lequel je crois pas, mais par contre il y a quelque chose dans lequel je crois plus fermement, même j'y croirais, même si la terre se fondait sous nos pieds. Je crois en l'espérance. Et qu'est-ce que c'est l'espérance? L'espérance c'est le Seigneur Jésus-Christ qui revient dans la gloire. Le Seigneur Jésus-Christ qui prend son Église auprès de lui. Le Seigneur Jésus-Christ qui établit son royaume. Le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je m'en vais auprès du Père. Je vais vous préparer une place. Là où je suis, vous y serez. » Et la véritable espérance, c'est l'éternité. On vit dans l'espérance. On sert dans l'espérance. On sert parce que c'est un acte de foi. Et on voit ça partout dans la parole. On voit Abraham qui est appelé, qui reçoit ses promesses merveilleuses. Il hérite de la terre promise. Mais quand il atteint la terre promise, il quitte tout pour aller dans la terre promise. La seule chose qu'il a possédée dans la terre promise, c'était juste la tombe de sa femme. Un bout de champ. Il était étranger dans la terre promise. Il a vécu la famine dans la terre promise. Il a dû s'enfuir en Égypte à cause de la famine. Il a souffert. Il a souffert tout le temps. Et le Seigneur lui a dit, voilà, regarde les étoiles du ciel, ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. On est inclus, nous, ici, dans cette descendance, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a vu de sa vie? Qu'est-ce que Jacob, qui a adoré sur l'extrémité de son bâton, a vu, alors qu'il était en Égypte, et que ses fils étaient devenus des vauriens, ils avaient vendu l'un d'entre eux pour être esclaves, etc. Qu'est-ce qu'il a vécu? Ou l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, qui a vu cette révélation de Jésus-Christ, mais qui dit à la fin, il dit une réalité affligeante, une réalité dans l'Église, il dit « tous m'ont abandonné ». Ils disent, tout le monde cherche ses propres intérêts. Un tel, il est allé ici, un tel, il est allé là. Tout le monde fait son business, mais il est en prison, il est tout seul. Il y a quoi? Il y a Marc, il y a Luc, et puis il y a un autre ami qui l'a trouvé dans les cachots où il pourrissait de la prison à Rome. Il attendait le martyr. Mais il était à peu près tout seul. Il n'y avait à peu près personne. Il était incompris. Il vivait dans l'espérance. Il savait que ici-bas, tout ce qu'on fait sera toujours entaché de faiblesse. tout ce qu'on fait sera toujours limité, tout ce qu'on fait sera, ce sera toujours petit. On parle de la véritable œuvre de Dieu. Une œuvre humaine, elle peut briller. Elle peut briller, mais c'est du plastique. C'est-à-dire, ça peut briller, mais c'est faux. C'est de mauvaise qualité. Ça tient pas. Ça va pas résister. Ça va pas résister à l'épreuve du feu. Ça aura pas de valeur dans la vie éternelle. Mais la véritable œuvre de Dieu, elle est imprimée de faiblesse, parce que le Seigneur n'a pas encore manifesté sa gloire. Le Seigneur n'est pas encore apparu dans la gloire. On adore le Seigneur Jésus-Christ sans l'avoir vu. On le sert sans le voir. Ceux qui disent « j'ai rêvé, j'ai fait des rêves, j'ai eu une vision, j'ai vu Jésus, j'ai vu le paradis », c'est pas biblique, personne n'a jamais vu Dieu. Le Seigneur Jésus n'a pas encore révélé sa gloire, et donc la gloire de l'Église non plus n'a pas encore été révélée. Ceux qui voudraient essayer de nous convaincre que l'Église peut accéder à la gloire ici-bas, c'est faux, c'est une usurpation, c'est un mensonge. La gloire de l'Église, elle n'est pas ici-bas. La véritable patrie, elle n'est pas ici-bas. Cette félicité qui nous est promise, elle n'est pas ici-bas. Donc on sert dans l'espérance, on sert sans voir. Et c'est ça qui nous permet. C'est ça qui nous permet de nous aimer les uns les autres. C'est ça qui nous permet de nous servir les uns les autres, d'avoir compassion des malheureux et pas de les piétiner. Pas de les piétiner, pas de les regarder de haut, pas de se dire ils sont comme ça parce que c'est des pauvres types, parce qu'ils n'ont rien compris, parce que c'est quand même pas très difficile. Quand tout va bien, aimer ceux qui souffrent, c'est difficile quand tout va bien. On se demande pourquoi on a tous des difficultés, je les appelle les épreuves collantes. C'est ce qui est collant, tu peux pas t'en débarrasser. T'espères que ça passe. Ça passe pas. On est tous privés de quelque chose de légitime. Il y a quelque chose, il y a toujours une tâche, quoi. Quand tu t'es bien habillé, tu t'es bien sapé, moi c'est pas mon truc, hein, mais tu t'es bien sapé, tu t'es bien habillé, et puis voilà, une grosse tâche juste là, quoi. Tout le monde le voit. Ou alors le discours bien préparé, puis une gaffe là. La grosse tâche plein au milieu, juste dire ce qu'il faut pas. C'est ça notre vie. C'est ça le ministère. C'est pour ça qu'il faut avoir pitié des pasteurs. Il ne faut pas leur demander d'être parfaits. Il faut qu'on ait compassion les uns des autres. Parce que qui que ce soit, on peut avoir autant d'expériences qu'on veut. On peut avoir fait autant de choses qu'on veut. On peut avoir les cours, le curriculum, les diplômes, les machins, je ne sais pas. Mais voilà, on est comme ça. On est comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher l'excellence. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, comme disait le frère, donner... tout ce qu'on a pour servir le Seigneur, mais donner tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a la foi, on a l'espérance. Qu'est-ce que le Seigneur cherche? Le Seigneur recherche la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est pas regarder à nous-mêmes, c'est regarder à Christ. C'est pas regarder à nous-mêmes en se disant, voilà, je suis bien préparé, je sais bien toute la vérité, donc voilà, c'est bien, je connais tout le conseil de Dieu, je peux dire aux autres, dès qu'il y a quelqu'un qui souffre, dès qu'il y a quelqu'un qui est malheureux, je peux lui dire, ah mais tu pourrais faire ça et tu devrais faire ça. Parfois on dit même un peu pire, on dit, si tu avais fait ça, ça ne serait pas arrivé. Bien sûr, ça n'arrive qu'aux autres, hein, les malheurs, sauf le jour où ça nous arrive à nous. Et ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver aux enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des situations qu'on n'arrive pas à surmonter, c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Il y a des situations de souffrance, il y a des situations de détresse, il y a des situations de péché, il y a des situations de tentation que tout le monde vit et qu'on doit porter les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on doit nous aimer les uns les autres et avoir compassion les uns des autres et que nos regards ne sont pas portés sur une sorte d'idéal qu'on se ferait de notre vie ici-bas. Notre vie ici-bas, elle sera toujours difficile, elle ne sera jamais idéale. Mais notre vie ici-bas, on la vit dans l'espérance. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence entre le chrétien et celui qui ne connaît pas le Seigneur. Notre différence, ce n'est pas qu'on est devenu... Bon, bien sûr, je veux mesurer ce que je dis. On n'est pas devenu des petits saints. Bien sûr, on est saints dans le Seigneur. On est revêtu de la sainteté du Seigneur. On est justifié par la foi en Jésus-Christ. La justice de Christ est sur nous. Mais on n'est pas ici pour essayer de se conduire comme des anges, parce qu'on en est incapable, parce qu'on ne peut pas. Mais on vit dans la foi, on vit dans l'espérance. David, il ne dit pas comme un auteur sceptique français, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Il dit, jusqu'à quand, Éternel, est-ce que tu cesseras de me cacher ta face? Jusqu'à quand est-ce que tu cesseras de m'oublier? Bien sûr que le Seigneur n'oublie pas, bien sûr que le Seigneur nous oublie pas. Mais des fois, on se sent oublié. Tu te sens jamais oublié. Des fois, on se sent seul. Tu te sens jamais seul. Des fois, on est dans la détresse. Des fois, on s'en sort pas. Et des fois, on aimerait bien que le Seigneur il réponde à nos prières et qu'il nous délivre de la détresse. Et il nous délivre pas immédiatement de la détresse. Et pourquoi? On ne sait pas pourquoi. On n'a pas d'explication. Mais il y a quelque chose qui demeure toujours. L'espérance demeure toujours. L'espérance, c'est pas nous. C'est pas une espèce d'état de béatitude dans notre cœur. L'espérance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans la gloire, qui est à la droite du Père, qui intercède en faveur des siens. Le Seigneur Jésus-Christ, il a pénétré dans le sanctuaire avec son propre sang. Il a scellé pour nous une alliance éternelle. Il intercède en faveur des saints. Et c'est dans le Seigneur Jésus-Christ que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verset chéri, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est pas tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que toutes choses concourent à notre bien en Christ. Pourquoi? Parce qu'on lui appartient. Parce qu'on est membre de sa maison. Parce qu'il y a une alliance éternelle qui a été scellée. Et parce qu'on vit, on vit pas dans les choses visibles, on vit dans la foi. Et le Seigneur reviendra dans la gloire. Notre vie ici-bas qui est tellement courte, notre vie ici-bas en Christ, elle est pour l'éternité. Elle est pour être auprès de lui, elle est pour vivre auprès de lui. Et c'est cette véritable espérance qui nous permet d'avancer, alors que souvent on aurait mille raisons de se décourager, de se désespérer, des circonstances et surtout de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que on est confronté à notre faiblesse et bon, à part quelques personnes qui voudraient nous faire croire différemment, peut-être dans le monde religieux, plus les années passent, plus on est confronté à notre faiblesse. Plus les années passent, plus on se rend compte que c'est difficile. Ça devient pas plus facile. Dans d'autres domaines, le travailleur manuel expérimenté, le menuisier expérimenté, plus il avance, plus c'est facile parce qu'il a des années d'expérience derrière lui. Mais je sais pas, servir le Seigneur, on a l'impression que c'est l'inverse. On voit de plus en plus notre faiblesse. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est parce que le Seigneur, il nous permet de mieux aimer les autres. Parce que quand on voit notre faiblesse, on aime les autres, on aime ceux qui souffrent, on a compassion d'eux. Et finalement, le véritable service du Seigneur, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est tellement différent de ce qu'on pense nous. Aimer le Seigneur, c'est pas faire une performance impeccable. Aimer le Seigneur, c'est nous aimer les uns les autres. C'est regarder à lui et c'est être dans la foi, être dans l'espérance. C'est ce qu'on fait, ce qu'on vit, c'est comme des grains qu'on met dans la terre, c'est une semence. Jésus, il dit quelque chose d'étonnant à ses disciples. Il dit, d'autres ont semé, et maintenant vous allez récolter, vous allez rentrer dans leur œuvre. C'est très particulier, parce qu'en agriculture, ça n'arrive jamais qu'un sème et l'autre moissonne. Quand tu sèmes ton champ, tu te le moissonnes. C'est toi, c'est ton champ, t'as investi, t'as semé ton blé, tu le moissonnes. Pourquoi est-ce qu'on moissonne le champ des autres? Et pourquoi est-ce que ce qu'on sème, nous, d'autres, le moissonneront? Parce que ce n'est pas pour nous qu'on travaille. Ce n'est pas pour nous qu'on vit. Ce n'est pas pour notre gloire. Et voilà, il y a le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, c'est pour le néant et en vain que j'ai consumé ma force. Il est dit que le Seigneur Jésus-Christ, il a été crucifié en raison de sa faiblesse. Un verset étonnant, un autre verset étonnant. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ne me demandez pas de l'expliquer, je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est une réalité. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il a été élevé dans la gloire, il est le sauveur du monde, et il nous appelle à le suivre. Et donc il y a cette espérance qui est au-dessus de tout. Quelqu'un, il peut être dans la foi depuis seulement une journée. Tu as peut-être accepté Jésus hier, ou il y a une heure. T'as peut-être aucune expérience de la vie chrétienne. Tu sais rien faire. T'as l'impression qu'il y a des chrétiens qui sont tellement expérimentés, qui savent tout. Mais si t'es dans cette espérance, si c'est dans cette foi, c'est ce que Paul dit tout simplement quand il dit, tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus-Christ. Faites-le à cause de lui. Faites-le pour lui. Même les choses les plus les plus simples, les plus terre à terre, les plus élémentaires, c'est les choses les plus ordinaires. Elles ont autant de valeur devant Dieu que les choses qu'on appellerait nous grandes, parce qu'on a décidé qu'elles sont grandes. C'est parce qu'elles sont dans l'espérance. C'est parce qu'on regarde pas à nous-mêmes. C'est parce qu'on regarde au Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur nous pense.
Merci.
Voilà, merci. Merci notre frère pour cela. J'aimerais juste qu'on puisse terminer tout ce week-end par un temps de prière. Alors nous allons courber nos têtes et que ceux et celles qui veulent prier et demander à Dieu de nous donner justement cette vision justement de l'espérance, de nous a lu ce passage d'Apocalypse.